Alors. Ouais. Donc, je travaille à porte ouverte depuis septembre jusqu'en janvier. Je suis stagiaire à la communication. Et je voulais vous présenter, en fait, porte ouverte en quelques mots. Alors, du coup, comme vous voyez, depuis 70 ans, porte ouverte existe. Alors, en fait, notre vision en fait, principale, en fait, c'est de fortifier l'Église persécutée. Et en fait, pour résumer en deux catégories, Donc, la première, c'est en fait être sur le terrain, pouvoir prier pour les chrétiens persécutés, en fait les soutenir en fait économiquement, et puis en fait aussi les soutenir pour qu'en fait ils puissent rester en fait dans leur pays et qu'ils soient un peu entre guillemets protégés. On fournit aussi également des Bibles sur place. Et puis le deuxième point, c'est en fait en vous informant en fait ici en Suisse, dans les pays qui sont pas forcément, qui sont forcément comment on dit persécutés. Bah en fait nous on vous informe en fait comment l'Église persécutée fonctionne et puis comment on soutient nous les chrétiens persécutés. Et puis en fait, nous, on soutient aussi en faisant un événement, je pense que vous connaissez, Audi Night et Audi Day. En septembre, on est allé pour en fait, parler des chrétiens persécutés. Et puis, on va du coup dans plusieurs groupes de jeunes aussi, en fait, informer aussi en fait, ma génération, en fait, c'est quoi l'Église persécutée. Et puis, en fait, il y a... Alors, voilà, l'index mondial de persécution 2025. Alors, comme vous voyez sur cette carte, il y a voilà, les 10 pays les plus persécutés dans le monde. Du coup, on retrouve la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, la Libye, le Soudan, l'Érythrée, Nigeria, Pakistan, Iran et Afghanistan. Et en fait, tout ça, c'est, comme vous voyez, c'est un chrétien sur sept est persécuté dans le monde. Et en fait, dans ça, ça représente la Suisse, toute la population suisse et toute la population des États-Unis. Donc, vous voyez que c'est énorme. Ça représente 380 millions de chrétiens persécutés. Et puis, il y a aussi, comme vous voyez, 1 sur 5 des chrétiens persécutés, en fait, ça vient d'Afrique. Donc, vous voyez qu'il y a une grande partie des pays qui viennent d'Afrique et des chrétiens persécutés qui viennent de là-bas. Et puis là, je vais vous présenter une vidéo pour en fait, vous parler de l'Église persécutée. Et puis voilà.
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne.
Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille.
La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar.
Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, « Oui, Seigneur, tu es là. » Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi.
Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves.
Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur.
Je demandais sans cesse à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu « Je ne t'ai jamais abandonné ». Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi.
Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur.
Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité.
Alors, cette vidéo permet d'introduire le dimanche de l'Église persécutée. Et puis, donc, Coralie vous a déjà présenté l'index. Et parce que un chrétien sur cinq vient d'Afrique, il y a eu une campagne qui a été lancée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Afrique unie contre la violence. Puis, en début de culte, Chris vous a demandé quels sont vos sentiments à l'égard de Noël. Puis moi, j'aurais la même question pour vous. Quels sont vos sentiments à l'égard de cette carte qui est affichée à l'écran? On voit qu'en 10 ans, entre 2015 et 2025, le continent africain se colore de rouge, qui est aussi le témoignage que la persécution est de plus en plus forte, qu'il y a de plus en plus de pays où les violences sont extrêmes pour nos frères et sœurs persécutés. Pour ceux qui sont déjà abonnés à nos ressources, vous savez comment les choses se passent. Ce sont des militants djihadistes qui ciblent particulièrement les villages chrétiens et qui viennent, kidnappent, violentent, font brûler les maisons, prennent possession des terres. Et ces attaques sont de plus en plus fréquentes. On voit le continent africain qui rentre de plus en plus dans l'index et les niveaux de persécution qui viennent de plus en plus forts. Quels sont nos sentiments ? Désespoir, nos prières ne servent donc à rien. Injustice, Dieu ne voit-il pas? Colère, tristesse, c'est une partie de notre corps qui subit ces violences. Ou peut-on y voir aussi de la joie? On peut. La raison pour laquelle nous avons aussi fait cette campagne, c'est parce que si on demande, même à ChatGPT, même à Google, quel est le continent où l'Église progresse le plus, où il y a le plus grand réveil, c'est l'Afrique. Alors on peut toujours voir les choses du point de vue des larmes, mais on peut les voir aussi du point de vue de l'espérance. Cette année, en tant qu'Église, vous réfléchissez, vous méditez, vous priez sur qu'est-ce qu'est être porteur d'espérance. Être porteur d'espérance, c'est voir au-delà des larmes, au-delà de l'injustice, au-delà de la violence et des souffrances, ce que le Seigneur est en train de faire, de voir la grande image de son royaume qui se développe et qui grandit. Oui, en Afrique, l'Église grandit. Et quand une Église grandit, la persécution est là, la violence redouble. Parce que quand on allume des lumières dans la nuit, ça chamboule l'obscurité. Parce que quand de plus en plus de chrétiens se réunissent, proclament le nom de Jésus, donnent leur vie au Seigneur, le parfum de l'odeur de Christ devient insupportable pour ceux qui représentent les ténèbres. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Mais Jésus est présent. Au cours de ce culte, on va revoir les différents versets, entre autres qui ont été présentés dans la vidéo. Et l'un d'eux, le premier, c'est tiré de Matthieu 28. Jésus promet sa présence. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est les témoignages qu'on a vus dans cette vidéo. C'est ce prisonnier rescapé de Corée du Nord qui dit « Je ne peux nier que dans tout ça, le Seigneur a toujours été fidèle. » Quelle phrase ! Quelle phrase quand on sait les conditions des camps de prisonniers en Corée du Nord. C'est le pasteur du Mozambique qui dit « Seigneur, tu es là » au moment où la mort l'entoure. Jésus est fidèle. Nombreux, j'imagine, parmi vous, ont connu des souffrances, ont accompagné dans le deuil. On ne peut nier le poids de gloire, la grâce du Seigneur dans les moments les plus douloureux de nos vies. Il est là. Et il est là dans la persécution. Et il est là dans vos vies. Alors cette campagne, ce n'est pas seulement du découragement. Ce n'est pas seulement de l'injustice. C'est aussi de porter son espérance dans ce qui se passe de plus grand, dans ce qui se passe dans l'avenir, dans la foi qui se répand sur le continent africain de manière extraordinaire. Et ça, c'est de regarder vers le futur. Et c'est cela l'espérance. On ne regarde pas aux situations présentes. On regarde à l'image globale de ce que Jésus est en train de faire dans l'avenir, parce qu'on voit les réalités spirituelles. On a son Saint-Esprit qui nous donne le discernement au-delà des circonstances pour croire encore en l'avenir. D'autres images de cette vidéo, c'est ce petit collage que je vous ai fait avec différents témoignages. 380 millions de chrétiens, comme l'a dit Kaorali, c'est un gros chiffre, mais c'est des vies. Ce sont tous des frères et sœurs dont le Seigneur connaît chacun des cheveux de la tête, dont connaît chacun des cris et des circonstances de vie. Alors, je voulais vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, en haut, pour vous, la dame avec la bougie, à gauche pour moi, peut-être à droite pour vous, je ne suis pas bien avec droite et gauche. C'est la toute première personne qu'on regarde quand on regarde une photo de groupe. C'est vous. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. C'est vous qui priez. C'est vous qui, dans les églises, portez la voix des chrétiens persécutés. C'est vous qui êtes cette lumière d'espérance, qui, par vos prières, lancez l'espérance pour les chrétiens persécutés, qui intercédez, qui soutenez, qui communiquez ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est vous. En haut, à droite, cet homme aux yeux bandés est un acteur qui a tourné une vidéo pour représenter la situation d'un chrétien iranien, Taher, qui a été emprisonné en cause de sa foi. L'emprisonnement est une réalité de l'Église persécutée. L'année dernière, donc c'est des chiffres de 2024, on a recensé 179 personnes emprisonnées en Iran à cause de leur foi. Mais il y a aussi des libérations. Une chrétienne iranienne, pour ceux d'entre vous qui reçoivent les nouvelles de Portes Ouvertes, Mina a été libérée après 2 ans d'emprisonnement pour avoir possédé une Bible. Et elle va continuer à posséder une Bible. Et elle va continuer à lire la parole. On prie pour nos frères et sœurs emprisonnés. Et on prie aussi pour leur courage et leur persévérance après l'emprisonnement. En bas, à gauche, notre sœur de Colombie représente des cas de persécution qu'on connaît moins, les cas de la guérilla. Et je voulais vous ramener un témoignage. Un groupe de jeunes est parti cet été en Colombie. Ils ont rencontré un homme avec qui ils ont eu un temps d'échange et prière. Et cet homme, elles l'ont décrite comme quelqu'un de tellement doux, tellement accueillant. Et puis, il leur a raconté son témoignage. C'était un chef de cartel. C'était un chef de la guérilla. On lit de Paul dans la Bible qui respirait la mort. Cet homme, c'est ça. Il buvait le sang de ses victimes pour continuer à être violent, pour faire des cultes sataniques. Il a essayé de tuer des chrétiens. Il a fait toutes les choses inimaginables qu'on peut penser quand on fait ce genre de pratique. Mais le Seigneur l'a touché. Il a eu son chemin de Damas. Il est venu à Christ. Il s'est repenti de ses fautes. Et aujourd'hui, il prêche l'Évangile. L'Église persécutée, c'est ça. On ne sait pas, parmi les persécuteurs d'aujourd'hui, qui sont les Paul de demain, qui sont les intercesseurs de demain, qui sont les pasteurs de demain. Alors oui, on prie pour les persécuteurs. On bénit les ennemis de l'Église. Parce qu'on ne sait pas ce que Jésus veut faire avec lui. On ne sait pas de quoi le futur est fait. Et on proclame la vie sur eux. Parce que peut-être ils vont être une bénédiction dans ces pays. En bas, de l'autre côté, on voit ce groupe de musique. C'est une photo qui nous vient d'Irak. En 2014, ISIS, un groupe islamiste, a envahi le pays. et les chrétiens ont été obligés de fuir. Cette photo date de 2024, 10 ans plus tard. Il y a des lieux comme celui-ci, autrefois criblés de balles, qui sont devenus des lieux où la louange est revenue. Ce groupe de musique a enregistré un chant de louange. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si là où il y a des pleurs, là où il y a des tirs de balles, là où il y a des incendies, des emprisonnements, des malheurs aujourd'hui, demain, il n'y a pas de la louange qui va s'élever. On ne sait pas les territoires que le Seigneur va redonner à son peuple. Alors on prie en tout lieu, on prie en tout instant, parce que le bras de Dieu n'est jamais trop court pour reprendre les territoires volés. On l'a chanté, notre Dieu est fort et puissant. On ne se limite pas à ce qu'on voit aujourd'hui. La prière compte. Au milieu, Timothy Cho. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un orateur à notre journée annuelle à Yverdon en 2023. C'est un rescapé de Corée du Nord. Il a dit au Seigneur, il s'est converti en Chine après son évasion, « Si tu me libères, je te dédie ma vie. » Et aujourd'hui, il fait du plaidoyer depuis l'Angleterre. Il partage son témoignage, il informe sur la situation, il prie pour les frères et sœurs de Corée du Nord. Parfois, Dieu permet qu'on échappe à des circonstances terribles parce qu'il y a quelque chose de plus grand à faire. L'Église persécutée nous transmet cette espérance. Alors, même si ce matin vous êtes venu en disant « Oh, c'est le dimanche de l'Église persécutée, ça va déjà me décourager dans ma vie compliquée. » Ce n'est pas le cas du tout. Du tout. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. C'est Dieu qui détermine les temps et les circonstances. Et ça, ça nous donne de l'espérance et de l'encouragement. Sur le côté, vous voyez cette borne, ce verset, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quel est le contexte de ce verset? C'est passionnant. Quand on regarde, le peuple israélite avait combattu avec les Philistins, leurs ennemis, et l'arche de l'Alliance, ce qu'on utilisait pour adorer Dieu, était partie avec les Philistins. Et ça a causé plein de malédictions aux Philistins. Donc les Philistins ont dit on va rendre l'arche de leur Dieu aux Israélites pour se débarrasser de toutes les malédictions. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis les Israélites, ils ne savaient plus comment faire avec l'arche de l'Alliance. Et puis ils ont eu aussi des morts, ils ont eu aussi des malédictions. Ils se sont dit, oulala, compliqué. On va mettre l'arche sur une colline et puis on va retourner vers notre vie. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Dieu, là, c'est un peu compliqué. Il en demande un petit peu trop. Et du coup, je ne sais pas quand j'ai un problème dans ma vie, si c'est une punition, si c'est qui m'a oublié, si c'est parce que je n'ai pas bien fait. Pff, je suis fatiguée en ce moment. Me lever 30 minutes plus tôt pour faire ma méditation, non, ce sera bien plus efficace que je dorme. Qu'est-ce qui peut se passer dans la prière? Tout. Mais moi, je préfère dormir. Lire ma Bible? Non, je ne comprends rien. C'est trop compliqué. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est notre épée. On l'apprend en Éphésiens 6. C'est notre arme de défense offensive pour lutter dans notre vie. Aller à l'église? Oh non, c'est bon, il y a la saison de ski qui va commencer. J'ai un peu autre chose à faire, j'ai besoin de m'amuser, parce que mon quotidien, là, il est trop lourd. Mais c'est dans l'unité entre les frères et sœurs que coule la bénédiction du Seigneur. Donner ma dîme? Non. Jésus, il a écrit la Bible avant de savoir combien la vie serait dure en 2025. Je sais juste, je peux juste pas. Mais tout appartient à Dieu. Et c'est lui qui gère nos vies. Et je veux apprendre la dépendance à lui, même si je vois pas comment on peut faire à la fin du mois. Toutes ces choses compliquées font qu'on pousse Dieu et que notre solution, dormir, aller au ski, pas donner sa dîme, c'est nos protections, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut faire avec nous. Ce n'est pas ça qui nous nourrit vraiment, ce n'est pas ça qui renouvelle nos vies. Le peuple d'Israël a fait la même chose. Pendant 20 ans, on a poussé l'arche de l'Éternel. Mais au bout de 20 ans, le peuple a eu faim et soif de Dieu. Leur Seigneur leur a manqué. Et j'espère que quand on pousse un peu Dieu dans nos vies, sur certaines choses, ce n'est pas par culpabilité qu'on revient, mais c'est parce qu'il nous manque. C'est parce qu'on sait qu'au cœur de la louange, que dans les temps de prière, quand on lit sa Bible, ça nous manque sa présence. Alors on revient à Dieu. Et le peuple a fait ça. Le prophète Samuel a été établi, le peuple s'est retrouvé à Mispa, s'est repenti devant le Seigneur, ils ont renouvelé l'alliance avec Dieu. Mais tout un peuple réuni ensemble à un seul endroit, c'est génial pour des ennemis. On fait une attaque, on les attaque tous. Les Philistins, quand ils ont vu ça, ils ont décidé de lancer une attaque contre le peuple d'Israël. Ça, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. On revient à Dieu, les mains levées en l'air à la louange, on repromet tout, on redonne tout. On a ces moments de prière extraordinaires où on redonne tout au Seigneur. Puis la vie reprend. L'ennemi, il nous a bien vus, les mains en l'air. Il ne va pas nous laisser revenir comme ça au Seigneur, hein, parce que c'est mieux quand on fait par notre propre force. Pour lui, on est beaucoup plus faible. Donc quand on revient pleinement à Dieu et qu'on s'abandonne à lui, il se dit « Tu t'abandonnes, moi je vais t'attaquer. Je ne vais pas te laisser refaire comme ça. » Et c'est ce que font les Philistins avec le peuple d'Israël. Et là, quand les problèmes reviennent et reviennent en force et qu'on a accepté de renoncer à nos mécanismes de protection, on fait quoi ? On les reprend vite pour s'en sortir ou on s'est vraiment abandonné à Dieu ? Et c'est ce que fait le peuple d'Israël. Il s'est vraiment abandonné à Dieu. Il se tourne vers le prophète Samuel et il dit « Prie l'Éternel pour nous ». Et là, le Seigneur intervient. Vous savez, il y a deux sortes d'interventions du Seigneur quand on regarde les guerres avec le peuple d'Israël. Parfois, il donne des techniques de guerre pour que ce soit le peuple qui attaque. Et parfois, il fait tout lui-même. Il n'y a rien à faire. On se lève et puis le peuple se lève et il finit le travail. C'est ce cas-là qui se passe. Il y a un grondement de tonnerre. Et l'armée des Philistins est dissipée, puis les Israéliens n'ont plus qu'à se lever et aller finir d'attaquer le peuple. Le Seigneur est intervenu sans que le peuple ne fasse rien. Et après cela, quand la victoire a été acquise, ils reviennent et ils font un autel, ils posent cette borne. Et par le prophète Samuel déclare, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus pour se rappeler pour la suite. C'est ce qu'on peut faire dans nos vies quand on a besoin d'espérance. Jusqu'ici, le Seigneur a été fidèle. Je peux regarder à mes témoignages passés. Je peux regarder aux exemples que j'ai entendus, aux témoignages de mes frères et mes sœurs, persécutés ou ici dans l'église de Cossonay. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi ne le ferait-il pas encore ? Quand on a des victoires dans nos vies, quand on a des miracles, apprenons à placer des bornes de gratitude pour y revenir dans les jours les plus douloureux. C'est ce que nous apprend l'Église persécutée. Humainement, c'est impossible que l'Église grandisse en Afrique, en Iran, en Corée du Nord, qu'il y ait des groupes de prière en Corée du Nord. Impossible. Et pourtant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, son Église a grandi. Jusqu'ici, il a fait. Et on peut s'appuyer dessus pour aller de l'avant. Quand on regarde au Nouveau Testament, moi j'aime bien me demander ce qui est dit dans l'Ancien Testament, comment ça s'applique dans le Nouveau Testament ? Quels principes on peut garder ? Est-ce que ça résonne encore ? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il y a Jésus ? Et je vous propose de regarder à ce verset, Actes 3:16. Le contexte de ce verset est aussi très intéressant, bien sûr. Pierre et Jean vont au temple pour prier, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils passent par la belle porte. Et là, ils voient un homme boiteux qui mendie et qui les regarde à eux, plein d'espérance. Et Pierre dit, « Je n'ai rien, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme, ses chevilles s'affermissent immédiatement, il rentre dans le temple en louant le Seigneur. Et là, ça intrigue la foule. Et Pierre va faire un discours où il va annoncer que c'est en Jésus seul, par la force de Jésus seul, que cet homme a été sauvé. Il y aura 5000 convertis. C'est la naissance de l'Église. C'est la première conversion de masse. On retrouve ce même principe. Cet homme attendait à la belle porte. Bien sûr, c'est quand on a besoin de ressources, autant se mettre à la belle porte. C'est là où on a le plus de chances d'être aidé par des moyens humains. Il regarde à Pierre et Jean, bien sûr, je suis dans le besoin. Je vais regarder à ces deux hommes qui passent, ils vont bien faire quelque chose pour moi. On fait tous ça. Mais eux, ils disent non, en Jésus seul viendra ta bénédiction et ton miracle. Alors, à ce premier miracle et cette première conversion de masse, c'est aussi le début de la persécution. Pierre et Jean sont arrêtés. Emprisonnés pour la première fois. L'Église grandit depuis le début dans la persécution, dans les emprisonnements, dans les difficultés avec les autorités. C'est intrinsèquement lié, parce qu'on est disciple de la croix. À la croix a été notre sauveur et notre maître. Nous sommes ses serviteurs, nous ne sommes pas plus grands que lui. Dans la souffrance, dans l'injustice, se place la croissance de l'Église et notre plus grande victoire, même si on ne le comprend pas vraiment. Alors, Pierre et Jean disent, c'est par la foi seule en Jésus. Et c'est par la foi seule en Jésus que nous tenons dans nos circonstances. Quand Pierre et Jean sortent de prison, qu'ils tiennent ferme, ils retournent à leur groupe de prière. Et là, ils font une prière magnifique, qui est une clé aussi pour nos vies. Ils ne prient pas pour que la persécution s'arrête. Ils ne prient pas pour que les circonstances s'arrêtent. Ils prient pour avoir la force de continuer d'amener le royaume de Dieu, même dans leurs circonstances. Ils louent le Seigneur, ils reviennent aux Écritures, ils reviennent aux prophéties, ils reviennent aux prophètes, ils reviennent à ce qui a été dit. Et ils voient que c'était annoncé qu'il y aurait de la souffrance. Et là, ils font leur prière. Et c'est ce qu'on peut regarder aussi. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Est-ce qu'on peut faire ça, nous aussi? Est-ce qu'on peut demander dans nos circonstances, non pas d'arrêter nos problèmes, mais que l'œuvre de Dieu se fasse, même dans nos circonstances de tristesse, que son royaume avance plutôt que régler nos problèmes? Oui, il y a des menaces, mais donne-nous d'annoncer ton royaume. Oui, j'ai des problèmes, mais donne-moi d'être une lumière au milieu de ces problèmes, parce que je veux impacter autour de moi. Est-ce qu'on peut faire ça aussi en tant qu'Église? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que je peux souhaiter au cœur de mon désespoir qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges, non pas pour moi, pour mes circonstances, non, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que je peux encore intercéder pour les autres, même si ma vie est en lambeaux? Est-ce que je peux encore intercéder pour mes frères et sœurs dont je ne connais pas le nom, alors que mes circonstances maintenant sont tellement difficiles? C'est le modèle que nous donnent Pierre et Jean. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand on fait une prière comme ça, le Saint-Esprit nous remplit. Nos circonstances disparaissent. Et on peut annoncer la parole de Dieu avec assurance. On peut la proclamer. Alors c'est l'encouragement que je veux faire aujourd'hui pour notre Église, votre Église à Cossonay, qu'on puisse annoncer avec assurance l'espoir que représente l'Église persécutée. Qu'on abandonne nos circonstances parce qu'on ne sera jamais assez fort spirituellement, assez riche financièrement, assez plein de ressources et avec assez de temps pour faire tout ce que le Seigneur nous demande et soutenir une cause telle que l'Église persécutée. Et pourtant, on peut abandonner nos circonstances et prier pour eux, les soutenir, partager leur histoire, parce que le Saint-Esprit nous remplit et nous appelle à le faire. C'est notre corps qui souffre. Alors je vous propose maintenant d'entrer dans un temps de prière que Coralie va conduire.
Merci Marjorie. Donc on va passer un temps de prière. Merci Marjorie. Alors on a quelques versets, quelques sujets un peu, on peut prier et penser. On peut en tout cas penser aux victimes qui sont emprisonnées en prison en Afrique. On peut aussi parler et prier pour le courage des chrétiens persécutés en fait dans leur vie en général, tous ceux qui du coup comme dans le verset priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, Éphésiens 6:19. Et puis un autre sujet, on peut aussi parler de la diffusion de la foi, vraiment que on puisse vraiment toucher en fait des cœurs pour les chrétiens persécutés. Et puis comme a dit Chris avant, en fait on peut aussi parler du pardon, de la foi, de la joie et en fait la justice et de la paix. Et du coup je vous propose que vous mettiez en petits groupes de 3-4 personnes et puis vous puissiez prier pour l'Église persécutée. Voilà.